Maxime Chatin, bonjour.
Bonjour.
Le coma des mortels, votre nouveau roman publié chez Albin Michel. Je dois dire que quand on l'ouvre, c'est une sacrée surprise. C'est un livre très atypique. Comment vous-même vous le définissez, ce coma des mortels?
C'est l'envie du romancier qui cherche avant tout à se faire plaisir et pas à toujours tracer le même sillon. C'est-à-dire que entre deux thrillers, j'ai eu envie de ce roman un peu différent, qui n'est pas un thriller, qui est plus un roman noir d'ailleurs, avec une touche d'humour par moment, un peu d'absurde. C'est un roman décalé par rapport à ce que j'ai fait, certainement, avec un ton très différent. C'est la volonté de se faire plaisir avant tout, vraiment. Je crois que j'insiste là-dessus et j'espère que les gens qui le liront, notamment tous ceux qui vont l'acheter en pensant que c'est entre guillemets un chatham traditionnel,
Oui, qui vont être
seront.
surpris, hein. Il faut les prévenir.
Alors je pense qu'ils seront très surpris, mais j'espère qu'ils embarqueront un peu comme s'ils découvraient un nouvel auteur avec sa façon de voir les choses. Alors on retrouve certaines de mes problématiques parce que ce personnage, ce narrateur, qui est
Pierre.
Pierre, qui est assez cynique et qui en est parfois même drôle. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais osé faire dans mes romans précédents, toucher le lecteur avec l'humour. C'est très compliqué pour un romancier, surtout quelqu'un qui fait du thriller habituellement. Donc j'espère que les gens se feront embarquer par ce personnage-là. C'est une espèce d'ode à la vie, alors qu'en réalité, on parle beaucoup de la mort.
Mais donc, ça n'est pas un tournant dans votre œuvre, c'est un livre qui va rester une exception.
Oui, il y aura certainement une suite parce que j'ai très envie de continuer de tracer ce sillon-là un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Ce qui m'amuse au quotidien, c'est l'écriture des thrillers, c'est ma passion. J'ai envie de décortiquer l'homme et ce qu'il y a de pire chez nous et nos mécaniques criminelles à travers le thriller. Donc, je vais écrire des thrillers et encore beaucoup. J'ai pas mal de projets sur le feu. Il y a un autre monde déjà pour la fin de l'année et puis le prochain thriller est aussi pas tout à fait en boîte, mais enfin ça avance. Donc, il y aura d'autres thrillers entre-temps et non, c'est un livre tout seul. Au milieu d'autres, mais je crois que c'est important pour un auteur de savoir s'écouter de temps en temps et parfois prendre des risques. Il y a deux façons de voir la littérature quand vous avez la chance d'avoir du succès. Soit vous dites c'est mon métier et j'essaie de correspondre à un cahier des charges qu'on attend de moi, c'est-à-dire voilà, je fais tel genre de livre, alors j'essaie de le faire bien et puis ça se vendra et puis j'ai du succès et tout va bien. Ou bien vous pouvez vous dire j'ai la chance d'avoir du succès avec ce que j'écris, mais je ne renie pas ce que je suis, ce que j'ai envie. Et un auteur, c'est aussi quelqu'un qui a des passions différentes, fluctuantes. Donc j'ai eu envie de ce roman-là. Ça ne veut pas dire que je pars dans cette direction, que les prochains sont comme ça, pas du tout. Mais ce livre-là, il sort parce que j'en avais envie. Je l'ai écrit il y a 2 ans et demi. Il a fait du tiroir pour cette raison-là, en fait. J'avais pas envie de le publier sur un coup de tête. Je voulais vraiment réfléchir. J'en ai beaucoup discuté avec mon éditeur. Et pas de l'éditer sous un pseudonyme, ça aurait été la possibilité aussi. Non, j'avais envie d'assumer. Ça fait partie de moi. On y retrouve certaines de mes obsessions sur ce qu'est fondamentalement l'homme, au fond, la dualité chez l'homme.
On y reviendra, oui.
Donc voilà, non, je suis très heureux de ce livre et je crois que c'est important.
Alors, il a fait du tiroir, pour reprendre votre expression, pendant 2 ans et demi, mais son histoire elle est même plus longue que ça. Ce livre, c'est une espèce de résurgence.
Ah oui, en effet, c'est un livre que j'ai écrit il y a 18 ans. C'était mon premier vrai roman et je l'ai relu il y a 3 ans à peu près, et je me suis rendu compte que le livre n'était vraiment pas bon. C'était bien que je ne l'ai jamais publié. En revanche, il y avait des idées qui me plaisaient dans le livre. Cette recherche de la vérité à travers ce que l'on est soi, est-ce que l'on ne se ment pas à soi au quotidien pour évoluer? Et j'ai eu envie de reprendre ça, donc j'ai repris une page blanche et j'ai réécrit intégralement le livre. Donc finalement, si vous compariez le manuscrit que j'ai écrit il y a 18 ans et ce livre-là, il n'y aurait plus grand-chose en commun, mis à part une phrase et le titre du livre.
Le commun des mortels.
Voilà.
Et cette phrase?
La vie n'est qu'un flash de conscience dans l'éternité.
Page 356.
Exactement, bravo.
Donc, alors en même temps, je me disais que peut-être jamais autant que dans ce livre-là, d'une certaine manière, c'était la voix de Maxime Chatham que l'on entend. Alors, non pas parce que Pierre, c'est vous, on l'espère pour vous, mais voilà, c'est aussi un livre dans lequel vous dites énormément de choses sur ce que c'est que l'écriture, sur ce jeu avec voilà, le vrai, le faux, votre vision aussi un peu de l'humanité, du monde. Enfin, il y a par moments un questionnement quasiment philosophique, et là on se dit, voilà, on l'entend là, c'est la voix de Maxime Chatham.
Alors, tout le travail sur ce roman-là était justement de parvenir à donner à Pierre, le narrateur du livre, sa propre voix. Surtout que c'est un personnage qui est un peu philosophique sur les bords, et donc il y a toutes ces grandes réflexions qu'il va avoir par moments dans le livre. Et en même temps, il fallait que je fasse attention à ce que ce ne soit pas mon porte-parole. Je ne voulais pas, moi, faire un livre qui parle de moi, de ce que je pense. Ben, il y a forcément des moments où c'est moi qui parle, bien sûr, ça peut arriver. Mais j'ai souvent travaillé sur sortir ce que j'avais en tête, moi, voir comment lui pouvait le penser. Et c'est un peu un travail de comédien, quelque part, se mettre dans la peau d'un personnage comme ça quand on écrit un roman à la première personne. Il faut être capable de s'approprier le texte, en l'occurrence ce que moi je pense en tant qu'individu, Maxime Chattam, et ensuite le redonner avec la vision et les tripes et les mots propres au narrateur du livre, en l'occurrence Pierre. Donc c'est un travail assez complexe et qui m'a permis de découvrir pas mal de choses sur le travail de l'écriture et de me remettre en question sur pas mal d'éléments notamment. Mais c'est assez passionnant à faire. En revanche, je vous mets au défi de savoir ce qui est ma vraie pensée et celle du personnage principal. À tel point que dans la première version...
On peut y jouer si vous voulez.
Non, mais dans la première version, il y avait une préface de 3 pages dans laquelle j'expliquais qu'il était important de ne pas confondre un narrateur quand un roman est écrit à la première personne, avec l'auteur. Surtout pour la fin, pour le coup. Mais bon, la préface, finalement, ne servait pas à grand-chose. Je crois qu'il faut que le livre se fasse tout seul. Il n'y a pas besoin que moi, j'intervienne.
Maxime Chattam, alors ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous, à la fois, vous jouez avec les codes, vous les reprenez, mais en même temps, vous les cassez. Et notamment, c'est une histoire construite à l'envers. Une histoire qui commence par la fin. Qu'est-ce
Oui.
que c'est que cette folie?
En fait, j'avais envie de poser la question au lecteur dans le roman policier, est-ce que la fin est plus importante que le reste? Et si je commençais un roman policier par la fin? Donc les premières pages, c'est la fin du roman, quelque part. Le livre est entièrement construit à rebours, puisque même les chapitres, eux, sont à l'envers dans le roman. Et j'avais
On
envie...
démarre par le 39,
Oui,
c'est ça, hein?
exactement,
Voilà, et
exactement.
jusqu'au premier.
Jusqu'au premier chapitre, qui est à la fin du livre, donc. Et j'avais envie de jouer là-dessus et de faire une sorte de livre miroir. La fin du roman, j'espère, peut amener le lecteur à se poser 1000 questions. Et s'il n'est pas sûr d'avoir toutes les réponses, il peut relire le livre même à l'envers pour avoir toutes les réponses à ses questions.
C'est-à-dire à l'endroit.
C'est-à-dire à l'endroit.
Bon, on va s'y retrouver, on va s'y retrouver. Et d'ailleurs, plus fondamentalement encore, c'est un livre qui s'interroge sur la vérité. Elle est où, cette vérité? Est-ce qu'on peut faire confiance à un narrateur et plus encore à celui qui peut se cacher derrière le narrateur, c'est-à-dire l'auteur? Ce sont des gens de confiance, là, ces deux-là?
Dans le domaine du roman policier, absolument pas. Mais c'est en effet toute la question. Est-ce qu'on peut avoir confiance en un narrateur dans un roman policier? Agatha Christie avait un peu posé les bases avec le meurtre de Roger Ackroyd. J'avais envie de reprendre ça et de le pousser à ma manière dans certains retranchements. La vérité d'un roman policier est-elle celle du narrateur, celle de l'auteur ou celle du lecteur? Et y en a-t-il une seule? Et c'est en pensant à tous ces éléments-là que j'ai écrit ce roman.
Alors, vous y avez déjà fait allusion, c'est un texte où il y a de l'humour, où il y a aussi beaucoup, beaucoup de sexe.
Oui, c'est vrai.
Je crois que vous n'avez jamais écrit avec des mots aussi crus et avec des images aussi directes. Qu'est-ce que c'est là aussi un défi que vous vouliez vous lancer à vous-même?
Un jour, ma femme, dans un de mes romans policiers, il y avait une scène d'amour qui faisait un paragraphe. Elle avait reposé le manuscrit que je lui faisais lire le soir. Elle m'avait dit: Mais tu peux pas faire ça en un paragraphe. On l'attend pendant 300 pages et d'un coup, ça vient en un paragraphe. Quelle frustration! Ah non, non, tu vas retourner à ton bureau et tu vas me faire une bonne grosse page, voire même 2, 3 bonnes pages sur le sujet. Et j'avais trouvé ça drôle et je m'étais dit, bah, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas un peu d'érotisme et de sexe dans un roman policier? Alors après, dans les thrillers que j'ai écrits jusqu'à présent, ça s'y portait pas vraiment, ça se présentait pas. Là, ce livre-là, c'était le cas. J'avais envie d'un roman noir, d'un roman à l'humour grinçant et d'un roman érotique en même temps, tout mélangé.
Mais Madame Chattam a toujours une influence comme ça, aussi considérable sur votre écriture.
En tout cas, elle fait beaucoup de remarques sur mes manuscrits et je tiens compte d'une bonne partie d'entre elles quand il s'agit des personnages, parce qu'elle a une vraie bonne vision de ce qu'est la fibre humaine.
Mais ce qui veut dire qu'elle est devenue votre première lectrice.
Oui, aujourd'hui, oui. Pour tout ce qui est roman policier en général, oui, je lui fais lire en premier. Oui.
Et y compris dans le processus d'écriture ou une fois que le livre est achevé?
Non, elle les lit. Alors, ça dépend des livres. Certains livres où, quand j'écris, je sens que je vais beaucoup revenir en arrière, beaucoup modifier, remettre les mains dans le cambouis, j'attends un peu. Mais quand j'avance et que je sens que c'est déjà à peu près bien en place, bien figé, je lui fais lire chapitre après chapitre. En général, le soir, je termine ma journée de boulot et je lui pose sur la table les pages écrites en lui disant, si tu as le temps, je veux bien avoir ton avis sur ces quelques chapitres.
Et puis alors, très très vite et très souvent, on part un peu comme ça vers une espèce de réflexion philosophique, voire métaphysique.
Il y en a beaucoup, oui.
À propos justement du sexe, je vous lis, page 86, c'est le paradoxe de l'orgasme, un moment de plaisir personnel, presque égoïste, qui ne prend tout son sens que parce qu'il se fait avec l'autre. Toutes les masturbations du monde ne remplaceront jamais ce frisson ultime pour cette raison. Donc c'est à la fois direct, mais c'est aussi profond.
Mais c'est-à-dire que c'est ce paragraphe-là, je trouve, parle de l'écriture en réalité. Écrire, c'est une forme d'onanisme qui est pourtant destinée à faire plaisir à d'autres. C'est assez paradoxal, hein, mais je trouve qu'à un moment, il fallait le dire avec d'autres mots que cela, et donc je suis passé par le prisme de mon personnage principal qui lui parle de relations sexuelles.
La part d'animalité aussi en nous, alors évidemment on la connaît, on la rencontre dans vos livres en permanence, c'est le mal qui est là tapi en chacun de nous, d'ailleurs dans animal il y a mal. Donc là vous aviez vraiment envie aussi de creuser, peut-être d'une manière un peu plus différente que dans le pur thriller, cette notion d'animalité chez nous.
Oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans mes romans. Je me pose toujours cette question de l'homme, de ses limites et de sa biologie. Et j'aime bien quand même rappeler dans mes romans que l'homme reste un animal avant tout. Et je trouve que cette notion du mal que j'ai si souvent, alors mal pour le coup, MAL, que j'ai si souvent abordée dans mes livres, un jour j'ai réussi à la définir telle que moi je l'apercevais après avoir écrit pas mal de romans sur le sujet. Je suis arrivé à une définition simple de ce qu'était le mal. Pour moi, le mal, c'est le hiatus qui existe entre ce que l'homme croit devoir être et ce qu'il est fondamentalement, biologiquement. Et dans cette incompréhension se niche tellement de déviances possibles qu'il faut une grande élasticité morale, spirituelle et aussi dans son identité pour parvenir à ne pas se briser en morceaux. Et de temps en temps, certains individus n'ont pas cette élasticité, cette plasticité entre l'animal qu'ils sont et l'individu civilisé qu'il faut être. Et ça donne naissance parfois à ce qu'on appelle le mal, les tueurs en série, etc. Et donc oui, cette question de l'homme animal est une des questions qui est au centre du roman. Mais j'y amène cette notion aussi de pondération. L'homme est capable de pondération, de réflexion, d'introspection. Il a une conscience réflexive. Du coup, il est capable par moment de se dire non, ça c'est pas bien, j'ai la notion du bien et du mal, mais je peux quand même faire du mal si j'en ai envie. Et donc c'est un livre qui parle de la vérité, de l'homme que l'on est, de l'animal que l'on est, et parfois de notre capacité à ne pas écouter cette petite voix de la morale qu'on a en tête.
Alors l'animal, et j'y reviens, l'animal qui est en nous, il est aussi très présent là dans tout ce qui touche au sexuel.
Bien sûr, mais c'est très lié. La dynamique criminelle est très souvent liée à la dynamique sexuelle. Alors, les tueurs en série en sont le principal exemple, hein, puisque chez 90%, voire même 95% des tueurs en série, il y a une notion sexuelle, qu'elle soit évidente ou pas. Donc forcément, parler de l'animalité chez l'homme, de sa pulsion, c'est parler de sa sexualité. Le mal est une pulsion, la sexualité est une pulsion, le crime est souvent une pulsion. Tous se rejoignent.
Mais alors, sans aller jusqu'au crime, jusqu'au meurtre, jusqu'à devenir un serial killer, l'homme, en particulier dans votre livre, et ça arrive souvent à Pierre, est emporté par ses pulsions, comme ça, sexuelles, animales, et vous le dites très souvent avec là aussi des mots à l'état brut, des formules très directes. Nos couilles ont plus de mémoire que notre cerveau, c'est un beau résumé de l'homme en général.
Bah oui, mais
C'est assez bien vu, finalement.
oui, enfin, il y a des moments où c'est aussi la parole du narrateur plus que de l'auteur, mais il y a des moments où je me retrouve assez avec le discours de Pierre, bien sûr. C'est toute la difficulté quand on écrit un livre à la première personne, c'est de se dire, est-ce que j'assume tout ce que mon héros va dire, ou mon anti-héros pour le coup dans ce livre-là? Il y a des moments où je suis pleinement d'accord, des moments où je ne le suis pas, ce qui enrichit, je pense, le dialogue, le discours dans le personnage.
Donc là, vous êtes pleinement d'accord là,
Oui, là, pour
avec
le
cette
coup, oui,
phrase
assez
de
d'accord.
Pierre.
Alors, c'est une généralité, comme toujours, mais oui, globalement, oui, pour pas mal de choses.
Les personnages féminins. Alors bon, ce qui se passe, c'est que on n'a pas dit. Il y a cette histoire à l'envers. Pierre a décidé de changer de vie parce que il était frappé d'une espèce de malédiction. Tous les gens qu'il croisait, qu'il rencontrait, auxquels il s'attachait, que ce soit des compagnons, mais aussi ses amours féminines. Tout le monde, voilà, ça tombe comme des mouches. Tout le monde meurt violente, assassinat, meurtre, disparition, suicide. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction? D'où sort-elle?
C'est l'histoire de Pierre, trentenaire, qui n'a pas fait sa crise d'adolescence, qui décide de la faire maintenant en la mélangeant à la crise de la quarantaine à venir et qui refait entièrement sa vie finalement. Il change tout, il change il plaque sa femme, il plaque sa famille, il plaque son boulot. Il refait toute sa vie, y compris jusqu'à changer d'identité. Et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a tous eu en tête à un moment dans notre vie? Est-ce qu'on n'a pas tous eu envie à un moment de se dire, si je refaisais ma vie demain, comment est-ce qu'elle serait? De quoi elle serait faite? Ben lui, il ne se pose pas la question, il le fait. Il ose. Et le problème, c'est que très vite, il se fait des nouvelles connaissances, des nouvelles conquête amoureuse, une nouvelle famille quelque part. Et peu à peu, tous les gens auxquels il s'attache le plus vont disparaître, mourir pour la plupart. La question est de savoir, est-il responsable directement? Est-il le coupable de tout ça? Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus sournois derrière toutes ces disparitions? C'est une des questions qu'on peut se poser dans un roman sur la vérité et sur refaire toute sa vie. Est-ce que notre part de culpabilité dans ce cas-là ne serait pas plus forte que nous-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de trajectoire prédestinée par notre société dans laquelle on ne peut pas dévier? Est-ce que le destin, la fatalité, ne nous empêcherait pas finalement de nous reconstruire totalement si on en avait envie?
Et alors je me disais que changer de vie, vous l'avez fait, c'est ce qui vous est arrivé. Vous travailliez libraire, c'était à la FNAC, hein, ouais, je vrai, crois, ouais. Un garçon anonyme travaillant dans une librairie, puis d'un seul coup, auteur de best-seller, un écrivain célèbre.
En fait, déjà, quand je suis entré dans cette librairie à la FNAC il y a quelques années, c'était pour écrire. C'est parce que je voulais avoir du temps pour écrire. Je voulais des horaires précis, terminer à 19h30, pouvoir écrire le soir à 20h30 jusqu'à pas d'heure. Je voulais avoir des vacances, etc. Avant ça, je faisais un autre métier qui ne me permettait pas d'avoir de temps suffisant pour écrire. Et donc, c'était mon obsession. Je voulais un peu de temps, un tout petit peu de temps. Je vais dire des choses très, très franchement. Je voulais faire 35 heures par semaine, pas d'heures supplémentaires, pour avoir un peu de temps dans ma vie pour écrire. Parce que c'était mon rêve, ma passion, écrire un roman, et puis un deuxième, et puis un jour être publié. Et voilà. La différence, c'est que j'ai été publié et que j'ai eu beaucoup de succès. Et ça, je pouvais parfois y rêver, mais pas vraiment y croire. Donc oui, ma vie a changé énormément en l'espace de quelques années. Maintenant, ça fait presque 20 ans que tout ça a changé. La différence, c'est que moi, je n'ai pas, par rapport à mon narrateur, à mon héros ou mon anti-héros, je n'ai pas vraiment changé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours la même famille, fort heureusement. J'ai toujours les mêmes amis. Donc non, les choses n'ont pas autant évolué que ça.
Moins de morts autour de
heureusement
vous,
pas de morts,
dans votre
oui.
sillage.
Heureusement.
L'humour, on en parlait tout à l'heure, et dans ce livre, il est là, omniprésent, avec des trouvailles, des situations. Moi, j'ai trouvé assez formidable. Par exemple, Pierre, pour changer de vie, devient aide-ménager aux eaux de Vincennes et s'occupe en particulier de ramasser les déjections des animaux. Et on découvre que les pandas, ces chers pandas, mais ne sont que des usines à merde, c'est ça? Des machines à produire de la merde?
Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
C'est ce que, en tout cas, nous raconte Pierre.
Le panda a un intestin qui fonctionne à merveille. Et ce pauvre personnage de Pierre est obligé de passer ses journées à s'en occuper. Sauf que Pierre, n'étant pas quelqu'un qui fait les choses comme tout le monde, quand il est confronté à un problème, il cherche toujours à trouver une solution, peu importe l'éthique qu'il y aura derrière.
De manière radicale.
Voilà, et donc il va donner un gros paquet de médicaments, d'imodium, entre autres, aux animaux qui l'entourent. Il va te filer du Xanax à certaines personnes.
Aux babouins qu'il trouve un peu trop agités.
Voilà, il trouve que les babouins sont assez compliqués à soigner, ouais. Donc il leur file de quoi les calmer. Et il va faire comme ça avec tous les animaux. Et c'est le concept même du personnage, c'est-à-dire qu'il décide de refaire sa vie, de ne plus s'embarrasser du politiquement correct et de ce que la société attend de lui qu'il fasse. Du coup, il agit un peu, vous savez, dans ces situations où des fois on se dit « j'aurais tellement rêvé, osé faire ça ». Alors parfois c'est l'inverse, on se dit là il va trop loin, il devient détestable. Mais il y a des moments où je trouve qu'il est assez, assez héroïque dans ses tentatives d'être lui-même jusqu'au bout.
Et où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées
Mais c'est le quotidien du romancier. Vous savez, vous avez deux formes de littérature. Vous avez la littérature qui est plutôt du domaine de l'autofiction. On va se nourrir énormément de soi, de son entourage. Et puis vous avez la littérature qui consiste à créer, à inventer. Moi tous les matins je me mets devant mon ordinateur. Et j'essaye d'inventer des histoires, des personnages, des situations, et ça me vient petit à petit, et puis après je les travaille. Vous savez, je considère qu'une idée, c'est comme de la sculpture. Vous avez une matière brute au départ, ça c'est l'idée, et ça, on en a ou on n'en a pas. Si on n'en a pas, on ne fait pas ce métier. Et ensuite, il faut la travailler, il faut la façonner. Avoir une idée, c'est bien, mais elle est rarement bonne dès le début. Et donc, il faut la travailler dans tous les sens, et elle a une certaine élasticité, une certaine plasticité, l'idée, et petit à petit, elle se construit, et un bon roman, c'est un bel agglomérat d'idées façonnées.
Alors, il y a une idée qui m'a beaucoup plu aussi. C'est la pêche téléphonique.
Ouais.
Pierre est un pêcheur. Enfin voilà, racontez, ce sera encore plus simple, raconté par vous.
Pierre a de nombreuses manies un peu étranges et il décide à un moment de se lancer dans ce qu'il appelle les pêches téléphoniques. Il prend son téléphone Et il compose des numéros au hasard, comme ça. Et son objectif, c'est de tomber sur des gens intéressants.
Il ne cherche même pas dans l'annuaire. Hein. Il compose vraiment au hasard. Il invente des combinaisons de 10 chiffres.
Il invente des numéros, il tente sa chance. Alors, très souvent, ça tombe dans le vide. Et du coup, il note le numéro, il se fait des carnets de numéros inexistants. Il les empile sans savoir vraiment pourquoi. On va découvrir plus tard dans le roman que ça peut avoir une certaine utilité. Mais à côté de ça, de temps en temps, il tombe sur des gens et il essaie de discuter avec eux. Alors, très souvent, on le prend pour un fou, un grand pervers. Mais parfois, ça fonctionne et il a des conversations assez surréalistes et une belle histoire dans le roman va naître d'une de ses pêches téléphoniques.
Que vous ont fait les psys, Maxime Chattam ?
Ah, les pauvres !
Parce que là, ils prennent cher. Hein. Mais à un moment donné, vous les comparez même à vous les appelez les cannibales.
Oui,
les psys
oui.
sont des cannibales.
Oui, ce qui est terrible, parce que moi, à titre personnel, je ne le pense pas un instant. J'ai eu la chance, je vais le dire comme ça, de rencontrer un jour dans ma vie un psy formidable. Et je n'ai vraiment aucune animosité envers les psys. Mais il fallait dans mon roman que les psys incarnent un rôle particulier et qui est assez dur, je le reconnais. Voilà, c'est comme ça que se construit un livre. Parfois, il faut savoir mettre de côté ce qu'on pense soi et servir le propos.
C'est ce que j'ai à dire, c'est ce qui est jouissif dans l'écriture, c'est du coup de prendre d'autres voies que la sienne, d'exprimer des pensées ou de libérer comme ça des choses qui ne nous sont pas propres.
Oui, oui, l'écriture c'est un privilège dans la mesure où ça vous permet de vivre mille vies. Écrire un roman, c'est se glisser dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas, aller voir des paysages qu'on ne connaît pas nécessairement, dire des choses qu'on ne pense pas et trouver comment les formuler. C'est parvenir à se mettre dans une situation où on se convainc soi-même de quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Et pourtant, il faut que ce soit crédible parce que le narrateur ou le personnage, le héros dans le livre, va le penser. Donc je construis mes livres de cette manière-là. Ce n'est pas toujours simple à faire, mais c'est assez passionnant. Et je trouve que c'est ce qui permet de sortir de chaque roman avec un certain enrichissement.
Herbert Léonard, qu'est-ce qui vous a fait ce pauvre Herbert Léonard ? Page 169, donc l'un des collègues de travail au zoo de Pierre est agacé par un groupe d'enfants. « Oh, ces gosses-là, je pourrais en prendre 3 ou 4 et les emmener derrière pour leur donner un bon coup de pelle dans la tronche en chantant du Herbert Léonard. » Herbert Léonard, bah, pour le plaisir, ça les calmerait, je pense. Ah oui, ça les calmerait, c'est sûr. Peut-être un peu trop même.
Ben, c'est toujours la même chose, j'ai rien contre Herbert Léonard, mais il y a un moment où il faut trouver des références et tant pis pour la pauvre référence si ça sert le propos.
Sur l'écriture quand même, là, vous m'avez mis au défi tout à l'heure de repérer ce qui est vraiment votre pensée et celle de Pierre. Alors à un moment donné, d'ailleurs, ce n'est pas Pierre qui s'exprime, c'est Constance qui est l'un des amours de Pierre et qui parle de sa honte. Page 364, je vais retrouver le passage, qui exprime sa honte voilà, de mettre sur le papier. C'était un effort, il fallait mettre à nu ce qu'il y avait de plus moche en elle, et c'est ça qu'elle exhibait ensuite en échange d'argent. C'est pour ça qu'elle éprouvait cette honte. Ça vous arrive parfois, justement, vous, avec toutes ces horreurs que vous alignez dans vos thrillers, de mettre un peu à nu ce qui se passe à l'intérieur de votre imagination? Il y a parfois cette espèce de sentiment de honte ou de se dire « est-ce que je ne vais pas trop loin ?» et en plus, ça me fait gagner de l'argent.
Alors en fait, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce personnage de Constance dit ça parce qu'elle écrit des romans policiers.
Oui, c'est pour ça que je me suis arrêté sur ce passage.
Voilà, dans ce moment-là, elle écrit des romans policiers et donc elle a honte parce que c'est une forme de prostitution. Ça m'amusait de l'écrire, d'autant plus que je ne le pense pas. Il m'est arrivé parfois dans ma vie de romancier de me dire « est-ce que là, je ne vais pas trop loin ?» Mais ma limite, elle est toujours simple, c'est d'aller jusqu'au moment où je sens que ce que je raconte ne sert plus mon récit et ça devient de la violence gratuite, par exemple. Si j'ai le sentiment que je suis dans la violence gratuite, j'arrête. Mais par contre, quand il s'agit d'aller très loin dans la description de la psyché d'un tueur en série ou même d'une scène de crime, ça ne me dérange pas du tout parce que, au contraire, je pense que ça sert le propos. C'est important pour que le lecteur soit amené dans un état d'esprit très particulier. Difficile derrière d'avoir une vraie réflexion sur la notion du mal si avant ça, vous n'avez pas décortiqué les faits incarné par le mal.
Page 327, c'est finalement la chose la plus difficile dans l'existence d'un homme que d'endosser sa propre peau jusqu'au bout, de se trouver vraiment et de ne pas se mentir. Vous l'avez trouvé, Maxime Chattam, votre propre peau, ça y est ?
Oui, ouais, je pense. Ouais, je pense que ça fait un moment et je pense que la paternité aide. Je pense que de se trouver dans sa voie personnelle et professionnelle aide beaucoup. Moi, ça fait un moment que je sais qui je suis, pourquoi je fais ces choses-là et pourquoi j'y prends un certain plaisir, j'y prends un plaisir intellectuel avant tout. Décortiquer, j'ai le sentiment que décortiquer le mal, décortiquer ce qu'il y a de plus sombre dans l'humanité, m'amène à mieux comprendre l'homme. Et si j'ai écrit des romans policiers il y a des années de ça, et parfois des romans très noirs, c'était pour avoir moins peur de ce qu'est l'homme. Décortiquer ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ignore, ce qui nous effraie, c'est le meilleur moyen de se rassurer. Stephen King disait: l'écriture m'a permis d'économiser des milliers de dollars en psychanalyse. Je pense qu'il n'a pas totalement tort. On écrit rarement des romans si on n'a pas quelque chose, quelques failles en soi à comprendre, à explorer. Et la littérature est le meilleur biais, je pense, pour le faire en y prenant un vrai plaisir.
Merci Maxime Chattam.
Merci à vous.